Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Samuel Fuller, conteur, inventeur et franc-tireur, avec Samantha Fuller, Jean Narboni et Fernando Ganzo. Bonjour et excellente année à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Je suis un conteur, mes récits étaient généralement tirés de mes expériences personnelles. D'autres histoires étaient des adaptations d'articles qui avaient fait les gros titres. J'ai concocté de nombreuses histoires à partir de situations imaginaires dont je rêvais sur le clavier grincheux d'une vieille machine à écrire en fumant un bon cigare. Même mes personnages inventés étaient sincères, que mon histoire mette en scène une pute, un général, un indicateur ou un flic, j'essayais de les rendre vrais, pas héroïques, pas patriotes, pas aimables, mais vrais, c'est-à-dire fidèles à leurs origines et à leurs désirs. Fidèle à ses origines et à ses désirs, Samuel Fuller, cinéaste indomptable, irrécupérable et inassignable, l'a toujours été, comme il l'écrivait dans son style sec, nerveux et direct, dans les premières lignes de ses passionnantes mémoires, Un troisième visage, Chaînon manquant avec Robert Aldrich et Nicolas Ray, entre le classicisme des grands studios de l'âge d'or et le nouvel Hollywood, objet de culte chez les cinéphiles et de nombreux cinéastes, et de malentendus aussi chez ses détracteurs comme chez ses turiféraires. Samuel Fuller est plus que jamais d'actualité en cette rentrée 2018, 20 ans après sa mort. Deux rétrospectives à la Cinémathèque française et à celle de Toulouse, un documentaire Fuller Life qui retrace sa vie à partir de ses mémoires et de ses images et avec ses amis, un film produit et réalisé par sa fille Samantha Fuller, son Ichiban, qu'on est très honoré d'accueillir dans Plan Large aujourd'hui. Trois ouvrages de fond, enfin, qui étudient et analysent une œuvre paradoxalement laissée en friche critique depuis trop d'années. L'un de ceux-ci, Samuel Fuller, un homme affable, s'attache dans un style direct, poétique et percutant que n'aurait pas renié Fuller à retourner tous les clichés associés au légendaire cinéaste. Il est signé Jean Narboni, critique et écrivain de cinéma, qui est également notre invité. Avec eux, enfin, un nouveau fusil dans l'escouade de Plan Large, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, qui en fin d'émission nous évoquera cette icône de la contre-culture qui était Andy Kaufman, le comique disruptif qu'avait interprété Jim Carrey dans le Man on the Moon de Milos Forman, un rôle dont l'homme au visage de caoutchouc ne s'est jamais vraiment remis.
Vous avez l'air seul.
What did he say?
You were alone. Un Américain, il parle pas français.
Oui, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait?
Who are you? What are you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil.
C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain. C'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Baudelaire, c'est bien. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
He said he wants to know exactly what his movie is.
Oh. Well, a film is like a battleground.
C'est comme une bataille, un film.
Yes. Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
In one word, emotions.
En un seul mot, c'est l'émotion.
Ah. Alors ce qu'on entend là, c'est l'icône Samuel Fuller dans Pierrot le Fou, évidemment, de Jean-Luc Godard, hein, au début du film, dans ce cocktail où il va donner sa définition du cinéma. Fuller, on va le voir comme icône, là encore, chez Spielberg, chez Wenders, beaucoup, hein, mais aussi chez Amos Guitaj, chez Luc Moulet, Denis Hopper, les frères Coris Maki, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on veut dire, Jean Narboni? Quel signe on envoie quand on met Samuel Fuller dans un de ses films?
Pour Godard, ça signifiait quelque chose touchant à l'essence du cinéma, hein, puisque l'image de Fuller a été très, très controversée en France. Il y a eu une exception française, je pourrais dire, sur la façon dont les films de Fuller ont pu être accueillis soit positivement, soit négativement. Et Godard, au moment de Pierrot le Fou, bon, saisit un cinéaste sur lequel il a écrit, sur lequel un certain nombre de gens des Cahiers du cinéma ont écrit, Moulet, Truffaut, et il demande, une sorte d'hommage extraordinaire, qui consiste à s'adresser à un cinéaste pour demander ce qu'il en est du cinéma. La question posée par Belmondo est celle-là. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est que le cinéma, et je vais demander à Samuel Fuller. Donc je pense que ce moment, qui est devenu maintenant... planétairement connu et très important, venant de la part d'un cinéaste immense lui-même.
Voilà, mais Fuller est utilisé également comme marqueur par ces cinéastes dont j'ai parlé. Wenders va le faire beaucoup tourner, évidemment dans L'état des choses, dans L'ami américain. Quand Dennis Hopper a besoin d'un réalisateur pour signifier le cinéma, là encore, quand il fait The Last Movie, il prend Samuel Fuller.
Bien sûr. J'ai noté un film, c'est L'état des choses de Wim Wenders. Et là, je me suis un peu attardé sur ce point, à propos de la question du noir et blanc, parce que dans L'état des choses, Fuller joue le rôle d'un directeur de la photographie, d'un film qui est en panne. Sa femme est mourante, elle va mourir pendant le tournage. Et à un moment, on lui pose la question... qu'est-ce que c'est que le cinéma, de la couleur, le noir et blanc, et je crois, ce que j'ai entendu ou lu est exact, que c'est quelque chose que Samuel Fuller a improvisé autour de la notion de couleur et noir et blanc. C'est-à-dire la couleur, bon, ça rend les choses vraies, mais le noir et blanc rend vraiment les choses. Et comme j'insiste beaucoup sur le noir et blanc chez Fuller, j'ai évidemment prélevé cette phrase que je trouve très importante, où il est là, directeur de la photographie.
Et la question de la vérité dans le cinéma de Fuller a son importance aussi, on va y venir. Mais alors si Fuller joue là chez Godard, c'est qu'il est effectivement en France à ce moment-là, en 1965. Effectivement, il travaille à une adaptation des Fleurs du Mal. La France, il va y revenir, Fuller, dans les années 80, pour une douzaine d'années, suite à la totalement invraisemblable affaire White Dog dressé pour tuer. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est ce qui fait que vous parlez si parfaitement français, Samantha Fuller, que vous avez vécu une bonne partie de votre enfance et de votre jeunesse en France. Comment est-ce que votre père vivait cet exil parisien ?
Bah, très très bien. En fait, ça, personnellement, en fait, ça nous a beaucoup servi, l'histoire de White Dog, qu'on ait quitté les États-Unis, parce que je pense que si on serait resté là-bas, j'aurais pas aussi bien connu mon père. Il aurait été tout le temps isolé dans son bureau, dans le shack, dont il sortait jamais. Il fallait vraiment le supplier, l'arracher de là pour venir dîner. Il était constamment en train de travailler, alors que en vivant en appartement à Paris, ça nous a beaucoup plus rapproché la vie parisienne. Il aimait beaucoup marcher, donc on faisait beaucoup de balades, et ce qu'on n'aurait pas pu faire à Los Angeles où on habite. Donc la vie parisienne nous allait très bien, personnellement. Et c'est vrai que j'allais revenir donc sur Pierrot le Fou. Il disait tout le temps, on lui ressortait cette phrase, one word, emotion, s'il avait $1 à chaque fois qu'on lui ressortait ça, il aurait fait plus de sous que tous ses films réunis. C'est un caméo qu'il a improvisé complètement. Quand il est arrivé sur le plateau, Godard lui a dit, vous dites ce que vous voulez. Et donc il a sorti cette phrase, emotion. Et emotion, c'est vrai, parce que venant de du journalisme, au fait, on ne peut pas trop mettre d'émotion dans son écriture. Le cinéma, pour lui, la différence entre raconter une histoire avec le journalisme et le cinéma, c'était justement la mot-clé, c'était emotion.
Et c'est une définition qu'on peut appliquer à l'ensemble de son cinéma, ou c'est réducteur? Parce que il y a quand même des façons un peu de réduire le cinéma de Fuller. Vous parlez de cette réception critique très favorable dès le début en France, mais enfin elle est assez ambiguë. Luc Moulet, dans cet article très célèbre de mars 1959, des Cahiers du cinéma, Samuel Fuller sur les Brisées de Marlowe, le présente comme une sorte de force brute, instinctive, merveilleuse. Ce qui est génial chez Fuller, c'est qu'il ne pense pas quasiment, c'est ce qu'il dit.
Oui, ça, bon, le texte de Moulet est fondateur, il est très important. J'ai voulu un peu relativiser cet aspect, c'est-à-dire que un de mes chapitres s'intitule « Fuller a-t-il pensé ?» Et je, pour l'avoir rencontré, pour l'avoir entendu, lu, vu ses films, c'est quelqu'un qui avait une pensée de sa pratique extrêmement élaborée.
Très bon instinct.
Voilà, donc il avait évidemment cet instinct... Il avait un génie de scénariste. Voilà, ça, j'ai voulu insister sur ce point. Mais c'est un génie qui lui vient d'une faculté de dramatiser immédiatement toute situation. Enfin, dès que deux éléments sont en présence, chez Fuller, il y a quelque chose d'électrique qui se met en, en place, au niveau de la pensée, au niveau de l'instinct. Et c'est un talent de scénariste qui n'a rien à voir avec un apprentissage. On ne peut pas faire des cours de scénario. Il n'y a aucun progrès. C'est une sorte de donnée brute, indécomposable, qui est sa force de scénariste. On a eu un peu tendance à basculer du côté d'une force brute, aveugle, etc.
Or, c'est ce que vous appelez le rabaissement valorisant. Voilà. C'est ce que fait Manny Farber, aussi le grand critique américain, quand il vend ses films.
Voilà. Voilà, donc, comme si... dire que Fuller ne pensait pas accroissait la force instinctive de son cinéma. Il y a cette impulsion, il y a cette énergie, mais il y a également une pensée du cinéma qui est extrêmement précise. Et quand il parle de ses films, avant, pendant ou après, il ne se contente pas de les raconter comme des récits, mais il y a tout le temps une analyse et un point de vue sur ce qu'il est en train de faire. Et j'ai voulu insister sur ce point. Donc l'article de Moulet est très important, mais... La provocation de départ, comme la plupart des grands cinéastes américains, Fuller ne pense pas, il a quelque chose à faire, il le fait, si vous pensez à aller voir ailleurs, bon, j'ai voulu un peu relativiser cette chose, tout simplement.
Alors, le paradoxe, c'est qu'on dit que, voilà, c'est un homme simple, mais sophistiqué, primaire et sophistiqué à la fois. Et on peut l'être les deux, à la fois, justement, il n'aimait pas les labels. En fait, qu'on lui affichait ceci ou cela, hein. Voilà, les étiquettes, c'est parce que les étiquettes, c'est bête, les étiquettes, au fait, c'est pas réfléchi. Il y a des façades, beaucoup de façades, donc on disait qu'il était primaire, rigolé, et puis ça, c'est un primaire sophistiqué, voilà, disons comme ça.
This is Johannes Gutenberg, who invented movable type 500 years ago and printed the first Bible. Recognized as the father of modern printing, Gutenberg stands on Park Row, the most famous newspaper street in the world, where giants of journalism mixed blood and ink to make history across the front page of America. Our story takes place in New York in the lusty days of the golden 80s, when Park Row was the birthplace and graveyard of great headlines. The street of America's first world-famous journalist. A printer's devil who helped draft the Declaration of Independence and was one of its signers, Benjamin Franklin, patron saint of Park Row. And it is the street of Phineas Mitchell.
Alors pour bien comprendre Samuel Fuller, évidemment, il faut revenir aux origines, à cette jeunesse de copy boy dans les journaux garçons de course des journalistes sur Park Row, cette artère new-yorkaise historique pour la création du journalisme contemporain, copy boy, puis très vite journaliste spécialisé dans la couverture des crimes. Alors ce qu'on entend ici, c'est le début de Violence à Park Row, film de Samuel Fuller, 1952, début assez étonnant dans son œuvre, parce que ça ressemble pas vraiment aux ouvertures habituelles de ces films. Vous le notez, Jean Arbony, dans votre livre, c'est presque un moment édifiant qui vante, voilà, qui exalte, qui recourt au mythe. Ce qu'on ne trouve généralement pas dans ces films, c'est dire à quel point c'était important pour lui de revenir sur ce journalisme fondateur.
Oui, il y a quelque chose d'essentiel. Bon, il a toujours déclaré qu'il aurait souhaité diriger un journal, donc il a été un copy boy puis un journaliste très actif, et Park Row est un film qui, pour lui, est capital. Zanuck était très réticent sur ce projet.
Darryl Zanuck, le patron de la Fox. Hein.
Voilà, qui était un ami de Fuller.
Il a essayé de le convaincre à le faire en musical.
Voilà. Ouais. Fuller a refusé. Il a mis de l'argent, il a perdu de l'argent puisque le film n'a pas marché. Et comme Madame Bovary, dont il a déclaré un jour, Park Row, c'est moi. Donc à la fois la rue, l'endroit, la géographie. Et puis quelque chose de l'origine du monde, c'est l'apprentissage de la vie. C'est-à-dire la rue d'un côté, la démocratie états-unienne, avec évidemment ses travers, ses défauts, ses crimes et ses erreurs. Et puis la vitalité de l'actif. Donc Park Row est un film très à part dans son œuvre. C'est le seul, à mon sens, ça peut être contredit, où... des choses dont il se méfie terriblement, c'est-à-dire l'idéalisation, la mythification, le ton épique, les hommages rendus, etc., joue un rôle très 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 important. Hommage aux ancêtres qui défilent, Brisbane, Greeley, Pulitzer, etc. Et le film a quelque chose de très très atypique. En même temps, bon, il est complètement fullérien dans sa facture, mais son ton et était très, très singulier.
Oui, parce que ce qu'a appris Samuel Fuller du journalisme, là je parle à Fernando Ganzo, qui a accompli le rêve de Fuller en devenant rédacteur en chef d'un journal, en l'occurrence Sofilm, c'est à la fois un style percutant et puis c'est la vérité avant tout. C'est-à-dire qu'on est dans l'opposition quasiment au Prince the Legend de John Ford. Il faut imprimer et dire les faits, aussi dérangeants soient-ils.
Je pense que c'est assez important en effet, et c'est ça qui rend Fuller aussi particulier dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, moi, pour l'expliquer ainsi, je dis que Fuller, c'est le cinéaste qui retrouve dans une même personne nos deux rapports à la fiction. C'est-à-dire celui de Sinbad, le marin, donc un homme qui travaille dans les marchés, qui doit partir vivre des choses, et puis quand il revient, il les raconte. Et de l'autre côté, c'est aussi un Don Quichotte, c'est-à-dire quelqu'un qui est fasciné par les histoires des autres et qui, à un moment donné, a envie de vivre et créer lui-même ses propres fictions. Et ce qu'il fera quand il sera cinéaste et qu'il va suivre le chemin des cinéastes qui étaient un petit peu ses pères et ses maîtres et qui l'ont pris sous son aile, comme il disait lui-même. Et c'est pour ça que le journalisme, c'est pas du tout anecdotique pour moi. Et ce qui fait presque, si vous voulez, le côté, toute la modernité du cinéma de Fuller, c'est pour ça qu'il est si particulier, il est si américain dans son rapport à la vérité. Et en même temps, c'est la France, sans doute grâce à cette modernité, qui a été le pays où on a pu intégrer et assimiler son cinéma peut-être le mieux.
Alors pour continuer sur les années formatrices, hein, c'est en journaliste d'abord, pour couvrir, comme il dira, le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, mais c'est avant tout aussi en fantassin, en troufion, que Samuel Fuller va s'engager dans l'infanterie à l'entrée en guerre des États-Unis. Au fait, comment est-ce qu'on dit troufion dans l'armée américaine ?
Dogface.
Soldiers of the U.S. Infantry have many nicknames. The Queen of Battle, Doughboy, Gravel Pounder. But the most familiar term for the infantryman with dog tags is Dogface. This Dogface is Combat Sergeant Rock, squad leader. First squad, first platoon, Company I.
24 years later, the Big Red One was fighting the Krauts again. It was World War II this time. We were invading North Africa.
Great. Thanks, fellas.
We were his rifle squad. First squad, first platoon, I Company, 16th Infantry. He called us his wet noses. Griff, he was a hell of a sharpshooter. Johnson was a pig farmer with hemorrhoids. Vinci was a street kid who played hot jazz on the saxophone. And that's me. I'm Zab. I thought I was Hemingway of the Bronx.
You really a book writer? Yeah. What book did you write?
The Dark Deadline.
Never heard of it.
Never read it.
It's an unpublished mystery novel. Left it with my mother.
Why's a book writer a rifleman?
To come out with a war novel, meathead. Why else, huh?
What about you, Griff? You gonna be a cartoonist for a big newspaper or something?
Say, Griff. You do everything left-handed?
Everything but shoot. I play with my pecker.
Voilà, mixage audacieux, de notre réalisateur Rafik Zénine entre deux moments très éloignés dans la carrière de Samuel Fuller. Le premier, c'est un inédit, vraiment une rareté, Dogface, le pilote d'une série télévisée qu'on trouve en bonus dans l'édition DVD de votre documentaire, Samantha Fuller. Et puis après, la voix off de Robert Carradine dans The Big Red One, Au-delà de la gloire. Robert Carradine qui joue en quelque sorte Samuel Fuller, même si tous les membres de son équipe, de l'escouade militaire, donne chacun une personnalité, hein, de Samuel Fuller. Samuel Fuller, donc, qui s'engage dans la première division d'infanterie de l'armée américaine, The Big Red One, la fameuse. Il fait trois débarquements, l'Afrique du Nord, la Sicile, la Normandie. Il va faire toute la guerre jusqu'à la libération des camps de la mort nazie à Falconao. Il va y filmer des images en 16 mm. Ça sera son premier film, d'une certaine façon. C'est des images qu'on voit dans votre documentaire Fuller Life, Samantha Fuller, qu'on voit aussi dans un autre documentaire d'Emil Weiss, Falconao, Vision de l'impossible. Alors on sait que la découverte des camps et de l'entreprise d'extermination des Juifs par les nazis a marqué la modernité du cinéma. En quoi cette découverte a marqué le cinéma de Samuel Fuller, et en quoi on peut retrouver finalement ce choc dans ses films, Samantha Fuller?
Je crois qu'avec la caméra qu'il a eue pendant la Seconde Guerre mondiale, que sa mère lui a envoyée, le 16 mm Bell & Howell, qu'il a reçu vraiment vers la fin, en fait. Il a attendu longtemps avant de recevoir cette caméra. Et quand il a enfin reçu, il a bien pu montrer au fait qu'on peut, par visuellement, avec une image, peut représenter tous les mots possibles et qu'on peut mieux raconter ça avec une image. Donc c'est vraiment là le transfert au cinéma, c'est au format visuel qu'il est passé. Parce qu'avant ça, il comptait vraiment écrire sur ses expériences de guerre, mais je pense en recevant cette caméra, vraiment, il a pu montrer plus que, donc avec une image, que tous les mots auraient pu représenter.
Jean Harmony, la façon dont Fuller, dans The Big Red One, Au-delà de la gloire, filme la libération des camps, se fait sur un contre-champ, sur le visage des soldats avant tout.
Oui, mais je voudrais revenir sur Falconer. Il y a deux choses importantes, c'est-à-dire qu'au moment où il découvre ce camp, la question se pose du voisinage. Or, il y a des gens qui ne sont pas très loin et qui n'ont rien vu, n'ont au courant de rien, n'ont rien entendu, n'ont rien senti, etc.
Et lui, il va faire un panoramique pour montrer la proximité des
maisons. Il y a deux
choses.
D'une part, le capitaine Richmond, qui visiblement est très important pour lui, fait défiler les villageois, les notables, qui effectivement ont l'air épouvantés, se bouchent le nez, détournent les yeux et obligent à enterrer décemment les gens. Et puis, cette intuition cinématographique, là aussi, quelque chose qui ne s'apprend pas, quelque chose qui est donné. Comment rendre crédible cette chose? Le champ contre champ va entraîner tous les négationnismes, petits ou grands, à venir. Donc la seule façon, c'est de montrer dans un plan comment les deux choses sont liées. Donc là, quelque chose apparaît sur la croyance cinématographique. Et ensuite, dans The Big Red One, évidemment, qui est un film beaucoup plus tardif, mais qu'il a mûri pendant longtemps, qu'il a désiré pendant longtemps, il y a ce moment... célèbre avec la découverte des camps, du four, etc. Puis l'enfant qu'on croit sauvé, qui finit par mourir presque invisiblement, imperceptiblement, sur les épaules de Lee Marvin, au moment où on le croit sauvé, qui est un moment très émouvant.
Et le fait de montrer l'évidence aussi, dans votre film, Samantha, on se rappelle de ça, de souvenir de la douleur de ne pas avoir été à Nuremberg, pour les jugements, où effectivement le moment capital était celui où on montrait, on nous forçait à voir les images, donc les évidences de ce qui s'est passé dans les camps. Et ce qui est très important aussi dans ce film, lui-même dans Verboten, il va utiliser cette idée. Et donc je crois que ça montre, enfin ça intègre dans son cinéma l'importance de forcer à voir, forcer à regarder, qui revient souvent et qui est assez frappante.
Alors ça fera évidemment cette expérience de la guerre de Samuel Fuller, un des rares cinéastes, si ce n'est le seul, à avoir réellement vécu l'expérience de la guerre, donc à savoir ce qu'il raconte quand il fait des films de guerre. Je les cite, ces films de guerre, hein. J'ai vécu l'enfer de Corée, Bayonnette au canon, Les maraudeurs attaquent, évidemment The Big Red One, et ce qui donne, alors là, premier malentendu, dans l'image de Samuel Fuller, cinéaste belliciste, va en guerre. Or, quand on regarde les films, c'est évidemment tout le contraire. Ce que filme Fuller, c'est pas l'héroïsation du soldat, c'est l'effet de la guerre chez ceux qui la font.
Absolument. Et d'ailleurs, on lui a offert d'être correspondant de guerre, qu'il a refusé. Il y avait George Stevens, John Ford, ils étaient là avec leur caméra aussi. Sauf qu'ils n'étaient pas sur le front line, sur le front. Donc lui, il a vraiment décidé d'y aller autant que fantassin, justement, pour pouvoir transmettre ce que les autres fantassins ressentaient, sans être à une distance, être vraiment à une proximité, de pouvoir montrer justement cette émotion que les autres fantassins ressentaient.
C'est le soldat à pied, hein, c'est celui qui marche, c'est celui des maraudeurs attaque,
Jean Harmony.
Bien sûr. Bon, sur l'aspect belliciste, je crois que la question est réglée. Hein. Pendant longtemps, il y a eu cette réputation absolument infondée. Mais je ne crois pas qu'à la vue d'un film de guerre de Fuller, que personne ait envie de s'engager. D'ailleurs, je crois que le fils du général Patton lui-même, devant les maraudeurs attaques, a dit « Bon, c'est un film très important, très intéressant d'un point de vue documentaire, mais il est complètement dissuasif quant au désir de s'engager. » Ça vaut pour tous les films. Donc,
c'est des films anti-guerre, vraiment.
Tout à fait. Donc, le malentendu a été levé assez vite, et là-dessus, je crois que la question est tout à fait réglée. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que... il a perçu qu'il était absolument impossible de rendre compte de la vérité de ce que pouvait être la guerre.
Il écrira dans son autobiographie que la seule façon de faire ressentir ce qu'est la guerre, ce serait de mettre une mitraillette derrière l'écran et de tirer sur les spectateurs, voilà. Ce qui serait assez mauvais pour la réputation et le box-office du film.
Ouais. Donc une phrase provocante qui marque un point d'impossible. Donc, mais en revanche, il a cherché une autre vérité, là, qu'il est arrivé à approcher, c'est celle de ce que ressentent les soldats. Et là, c'est très étrange parce qu'il parle d'émotion. Et quand il écrit la guerre, il dit il y a une absence d'émotion, qui est l'émotion suprême de la guerre, c'est-à-dire que là, on est vidé de tout, de la pensée, etc. Il y a une seule chose, des réflexes, on est presque un...
C'est la survie.
De mécanique, on a des gestes. Tuer,
l'instinct
pas d'être tué, de ramper, se nourrir, déféquer, avancer, ramper. Et ça il est arrivé à le rendre.
Oui, ce qu'il montre...
Il rigolait souvent en voyant des films de guerre. Quand on voit un soldat qui sort la photo de son bien-aimé qui fait une prière, il disait « That's bullshit !» Quand on tire dessus, t'as pas le temps de sortir une photo ou de faire une prière. Tu penses qu'à la survie. Donc, pour lui, c'est vraiment ce qu'il voulait montrer. Justement, dans ces films, on voit jamais un soldat en train de regarder une photo de sa bien-aimée ou de faire une prière, parce qu'il n'y a pas le temps pour ça. Et c'est vraiment l'instinct primaire qui vient. Et c'est donc voilà, la survie, des chaussettes sèches et du papier toilette. Voilà, c'est les basiques.
Oui, ce qui intéresse sans doute aussi Fuller, c'est que la guerre, c'est une histoire d'hommes, d'hommes entre eux, ce qui provoque, dans le meilleur des cas, parfois cette fameuse fraternité d'armes, et parfois un peu plus que ça encore.
Wake him up. That's enough. Who are you working for?
Come on, answer the man. Answer the man!
Who are you working for?
Spanier.
Who's he?
Me.
And who else?
Eddie.
Eddie who?
Spanier.
I asked you who else you're working for.
I told you.
Well, Griff, you had it figured right. Now, a Chicago mob was coming in to take over Tokyo. Well, that's what happens when you act like a hoodlum. Selling protection. You know, my pappy used to tell me about that while I was on his knee. Where you been the last 20 years, Eddie? What museum did you crawl out of?
What's it to you?
I don't remember seeing you around.
You will.
Voilà, et il n'a pas fini de le revoir, ce Robert Stack, Eddie Spanier, c'est une façon de faire irruption dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que vous décrivez cette scène de la maison de bambou, Jean Narboni, et c'est vrai qu'il y a souvent ça chez Samuel Fuller, ces amitiés assez ambiguës entre hommes, ce que vous appelez, en citant Baudelaire, les voluptés de la camaraderie. On trouve ça dans J'ai tué Jesse James, on le retrouvera dans Les Maraudeurs attaquent également. Il se passe quelque chose entre hommes dans les films de Samuel Fuller.
Oui, j'ai essayé de creuser un peu cette notion, parce que c'est compliqué lui-même, qui est moins pudibond que ses contemporains et parfois que ses commentateurs, n'hésite pas à parler d'homosexualité parfois, mais c'est trop net.
C'est une étiquette encore.
Pardon, oui.
Et voilà.
C'est à la fois trop général et trop précis. Mais le mot est prononcé à la fin de J'ai tué Jesse James. C'est le mot amour. Oui. Donc voilà, c'est de l'amour. Jesse James, Bob Ford a tué Jesse James à la fin. On a ce plan très trompeur. Un homme et une femme sont dans les bras l'un de l'autre. L'homme agonise. Ça n'est pas ce que vous croyez, parce que la femme ne l'aime plus, elle en aime un autre. Et lui, en train de mourir, il fait une déclaration d'amour, mais c'est pas elle. Il dit j'aime celui que j'ai tué.
Puis donc, c'est un amour qui est pas sexuel, forcément, justement.
Tout à fait.
C'est un amour d'un être humain, c'est la camaraderie.
Dans Maison de Bambou, c'est pareil. Donc, il fait irruption dans la vie de Robert Ryan. L'Ichiban, c'est-à-dire le favori de Robert Ryan, Jaloux détecte tout de suite, il a tapé dans l'œil, ou un des membres du gang, il a tapé dans l'œil de Robert Ryan, et ensuite tout le film va développer cette chose, sans qu'à aucun moment rien ne soit précisé, mais tout au long du film, Robert Ryan va avoir quelque chose, une sorte de coup de foudre, hein, puisqu'il arrive brutalement dans sa vie, pour Robert Stack, et tout le film va mener de front cette... attirant cet amour, cette affection pour lui, et il va faire policière.
Mais c'est une amitié, une affection aveuglante, parce que vous parlez de ce caractère trompeur des images à la fin de Jesse James. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui va se tromper en permanence sur ce qu'il voit, aveuglé qu'il est par cette amitié qui va prendre en permanence les mauvaises décisions.
Oui, parce que tout au long du film, Robert Ryan ne veut pas croire, malgré tous les indices, que Robert Stack est un infiltré, un traître qui veut sa perte et la perte du gang. Donc, tout au long du film, on va voir les étapes de l'aveuglement de Robert Ryan, qui jusqu'à la dernière seconde va croire que le traître est son ex-favori, Cameron Mitchell.
J'aime pas le mot homosexualité spécialement. J'aime bien, en anglais, on dit un bromance. Un bromance, c'est vraiment un amour entre deux hommes sans que justement ce soit sexuel. C'est un respect, c'est un amour. On peut être jaloux, on peut avoir tous les mêmes sensations que d'être dans une relation homosexuelle, mais sans qu'il y ait le sexe. D'ailleurs, on ne voit jamais de sexe. Hein, dans les films de mon père, il y a de la romance, mais il n'y a pas de sexe.
Mais il y a, et puis il n'y a pas que des hommes chez Samuel Fuller, hein, il faut le préciser, il y a aussi des femmes. Et quelles femmes?
Why are you holding back on me? You'd sell anybody for buttons.
Yeah, but not to you, mister.
Look, I haven't got a lot of time.
You haven't got a lot of time. Listen, mister, when I come in here tonight, you've seen an old clock running down. Tired. I'm through. Happens to everybody sometime. Will happen to you too someday. With me, it's a little bit of everything. Backaches and headaches. I can't sleep nights. It's so hard to get up in the morning and get dressed and walk the streets, climb the stairs. I go right on doing it.
C'est sans doute un des plus beaux moments de toute la filmographie de Samuel Fuller, cet extrait du Port de la Drogue en français, ce titre imbécile de Pick Up on South Street, où l'indicatrice Mo, la vieille indicatrice qui veut absolument, son rêve c'est de ne pas finir à la fosse commune, elle rêve de se payer un cercueil et elle va refuser de balancer son copain, un espion communiste, parce qu'elle déteste les communistes sans doute savoir trop ce que c'est. Alors ce film, on en avait parlé avec Charles Garçon en plan large, c'était le 10 juin quand le film était ressorti en DVD chez ESC Édition. Alors quand je parle de titre imbécile, c'est toute une histoire, l'histoire du titre français du Port de la Drogue. Il ne faut pas sortir ce film en France à une époque où l'électorat communiste représente un bon quart des Français, ce film où les méchants sont des communistes. Donc on va remplacer tout ça dans la bande-son française par une histoire de drogue, mais ça cristallise en France un nouveau malentendu. Je parlais du belliciste tout à l'heure, l'image du fasciste Fuller, comme on l'appelle dans les cercles cinéphiles français dans les années 60. Vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, Jean Narboni. On ne parlait pas de Fuller autrement que le fasciste Fuller.
Oui, ou le Fuller d'extrême droite. Oui, ça c'est ce que j'appelle l'exception française. Hein. Donc, le film à Venise en 53, il obtient le Lion de bronze. Il sort en France en 61. C'est-à-dire que bon, il a été immédiatement taxé de film anticommuniste, bon, ce qu'il est d'ailleurs officiellement. Mais à partir de là, si on n'était pas communiste, bon, on ne pouvait être que d'extrême droite. C'est impossible d'être un démocrate jeffersonien, un peu anarchiste.
Un fort penchant anarchiste.
Hein. Oui, comme l'était Fuller. Il a fallu 8 ans, et au moment de la sortie du film, bon, les distributeurs ont craint des réactions du Parti communiste, et donc il y a eu ces deux versions, maintenant l'histoire est bien connue, qui transforme l'histoire de microfilm que des communistes convoite par une histoire de drogue tout à fait invraisemblable. Mais je n'habitais pas Paris à l'époque, mais quand j'ai appris ensuite que l'expression le fasciste Fuller ou l'extrême droite Fuller, j'ai été sidéré. Donc là, évidemment, les attaques menées par les communistes et principalement par Georges Sadoul ont beaucoup fait pour dégrader l'image de Fuller pendant toute cette période. Quoi.
Donc, Samantha Fuller, comment est-ce qu'il vivait ça? Ce malentendu, ça le faisait rigoler, il trouvait que c'était vraiment des connards
c'est vraiment du bullshit et ils vont trouver une autre étiquette dans 6 mois à me trouver, au fait. Parce qu'ils trouvaient vraiment aussi, une fois de plus, c'est vraiment une question d'étiquette, c'est simplifier les choses, c'est des gens qui réfléchissent pas bien. Et de dire qu'il s'en est sorti aux États-Unis avec J. Edgar Hoover et le FBI, et alors qu'en France, il s'en est pas sorti avec cette histoire, c'est encore un autre paradoxe dans sa carrière, au fait, pour montrer qu'il est accepté, il arrive à se faire accepter d'un côté, mais pas de l'autre. Après, quand l'autre côté l'accepte, c'est l'autre côté qui le refuse. Donc, il faut jongler tout ça, et puis, il s'attardait jamais à vraiment s'énerver sur des choses comme ça, parce que c'est une perte de temps. Pourquoi expliquer s'ils comprennent pas? Ils vont trouver, comme je dis, autre chose dans 6 mois à venir. Et moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais continuer à écrire une autre histoire qui vont leur trouver une autre étiquette à me donner.
Ben, autre paradoxe encore sur la réception de Samuel Fuller, c'est que le public est généralement très marqué par une certaine violence, une certaine sécheresse dans ses films. Ils vont peut-être se souvenir plus du port de la drogue sur les rapports entre le héros et l'héroïne qui passent leur temps à se taper dessus avant enfin de succomber à l'amour, alors qu'il y a ce genre de moments dont on vient de passer un extrait extrêmement doux dans un autre film assez nerveux comme ça, Underworld USA, les bas-fonds new-yorkais qui ressort en salle la semaine prochaine. On se souvient de la violence et peut-être moins de ce moment magnifique où on va entendre une femme en voix off sur le visage un peu impassible de son amant énumérer toutes les façons de réagir pour une femme à un baiser d'homme. Et ce moment, elle lui dit à la fin, quand toi tu m'embrasses, je meurs de l'intérieur. Moment magnifique, Jean Arboni.
Oui, c'est un moment très 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 beau. On en trouve hier soir, en voyant le port de la drogue, j'ai été frappé par la beauté, la splendeur des scènes entre Shirley Yamaguchi et Robert Stack,
qui sont d'une
délicatesse, enfin, qu'on ne soupçonnait pas à un certain moment chez Fuller. En réentendant la définition du cinéma qu'il donne tout à l'heure, qu'il donne chez Godard, j'ai été frappé par le fait qu'après Champ de bataille, le premier mot qui apparaît, c'est love. Il est dit très fort. Donc j'ai un peu insisté sur mon livre, sur un aspect qui a peut-être été un tout petit peu sous-estimé à un moment dans le cinéma de Fuller, c'est-à-dire qu'on a des personnages d'abord de femmes extrêmement intéressantes, qui reviennent de loin souvent, même qui reviennent de bas. Donc Jean Peters, Constance Towers,
Thelma Ritter,
Shirley Yamaguchi, Victoria Cho dans Crimson Kimono, et des scènes d'amour qui sont très poignantes dans les films, y compris dans Le Port de la Drogue, qui est celui qui a été saisi comme le film misogyne ou
j'oublie encore cette étiquette, le Fuller misogyne. Et puis, on parle de moments, de femmes extraordinaires. Il y en a encore une autre qui est abordée, on dira, dans un moment de détente.
She's a high-riding woman with a whip. She's a woman that all men desire. But there's no man can tame her. That's why they name her the high-riding woman with a whip. She commands and men obey. They're just putty in her hands, so they say. When she rides and the wind is in her hair, she has eyes full of life, full of fire. But if someone could break her and take her whip away, someone big, someone strong, someone tall, you may find that the woman with a whip is only a woman after all.
Voilà, cette femme au fouet qui chevauche sur son cheval blanc, c'est évidemment Jessica Drummond, Barbara Stanwyck dans 40 tueurs, 40 guns, un des quatre westerns seulement de Samuel Fuller, mais alors qu'il y aura un impact sidérant sur beaucoup, beaucoup de personnes, notamment sur Jean-Luc Godard, hein, qui va reprendre un plan célèbre d'une femme vue par le canon d'un fusil. Ça devient une femme vue dans un journal enroulé chez Jean-Luc Godard. Alors c'est le cas assez rare, et très rare même, d'une star chez Samuel Fuller. Il va toujours éviter soigneusement d'embaucher des stars, de tourner des films à gros budget. Il va refuser de prendre John Wayne, par exemple, pour The Big Red One.
Ou Marilyn Monroe.
Ou Marilyn Monroe à la place de Barbara Stanwyck. Enfin, c'est quand même déjà une grande star, Barbara Stanwyck, même si elle a 50 ans à ce moment-là. C'est la cinquantaine voluptueuse. Dans ce film, il était important de tourner léger pour pas cher et rapidement, histoire de préserver son indépendance. Samantha Fuller, Jean-Laure Abony.
Oui, c'est un film très, très, très étrange, une sorte de contre-épreuve des autres films de Fuller, avec cette femme et son harem de 40, pas vraiment tueurs d'ailleurs, hein. 40 guns, c'est au sens 40 fusils, mais pas 40 tueurs, il n'y a pas beaucoup de monde.
C'est 40 pénis.
Voilà, donc le film...
Vous l'avez dit, c'est le film qui explicite la dimension sexuelle de l'arme à feu.
On a sans arrêt, de façon presque... bande dessinée volontaire ou de cartoon, l'équivalence sexe goût des armes, puisque c'est un film aussi qui dénonce le goût des armes à feu.
C'est ce qui le rend toujours très actuel sur l'Amérique d'aujourd'hui et sa fascination pour les armes à feu. Voilà.
Et c'est très curieux parce que c'est un film très inspirant. Non seulement Godard a écrit dessus et s'est inspiré, mais Truffaut aussi, puisqu'il reprend dans La mariée des temps noirs ce moment magnifique de la... du marié qui est tué sur le devant l'église et dont on ne sait pas, le montage étant très court, si c'est lui qui est mortellement atteint ou si c'est son épouse. Et Truffaut a repris exactement ce
moment. Clint Eastwood va lui aussi s'inspirer du début du film pour le début de Pale Rider, parce que le début des films de Fuller est toujours extrêmement, extrêmement impressionnant, prenant. Vous le citez dans votre film, Samantha Fuller, vous le faites dire, je ne sais plus par qui, c'est Constance Towers, je crois, qui raconte par rapport au début incroyable de Naked Kiss aussi, hein, cette scène de la prostituée tabassant son amant et perdant sa perruque, se retrouvant chauve. Attrapez votre public par les couilles dès le générique du début et ne le lâchez pas. Mettez-lui en plein la vue avec votre histoire. Faites-lui aimer ou détester vos personnages, mais ne le laissez jamais indifférent.
Absolument, absolument. D'ailleurs, c'était bien sympa de faire lire ça à Constance Towers, qui l'a très, très bien pris, de lui mettre des mots comme ça dans la bouche. Mais c'est vrai, c'est l'indifférence qui l'énervait le plus, au fait, dans la vie. C'est, tu peux aimer ou détester quelque chose, c'est très bien d'avoir une opinion. Et c'est les gens qui n'ont pas d'opinion ou qu'on ennuie avec un film. C'est ne jamais ennuyer quelqu'un, un spectateur. Il n'est pas venu voir ton film pour s'ennuyer. Donc, qu'il sorte en le détestant, c'est très bien. C'est une émotion. Justement, c'est ce qu'il aboutissait très bien avec les gens. C'est qu'il ne laissait personne indifférent. Donc, il y a les deux parties. Ceux qui aimaient, ceux qui détestaient. Mais pour lui, ça lui allait très bien tant qu'il y a justement une réaction.
Et puis, encore une fois, c'est le journaliste qui parle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait qu'au bout de trois lignes, on peut abandonner. Donc, effectivement...
Exactement. Et puis, de tourner rapidement et pour pas cher, c'est aussi le deadline un peu qu'il a en lui, dans son DNA.
Le bouclage.
Et puis, de passer à l'autre histoire. Parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter... On va pas s'attarder dessus à faire des stars et des make-up et des costumes. Ça porte pas pour lui à l'histoire, au fait. C'est vraiment les mots sur la page et le dialogue qui va compter. Et tout ce qu'il y a autour, écoute, c'est pas l'essentiel, au fait.
Jean-Marc Monny.
Oui, les débuts sont foudroyants, on s'en souvient. Mais ils sont parfois très trompeurs. C'est-à-dire que ça commence par cette accroche, au sens journalistique du terme, et très souvent, ça j'insiste là-dessus, il y a chez Fuller des plages pseudo-statiques, qui en fin de compte sont toujours très, très intenses, mais des plans, des pauses, des changements de ton et de rythme, qui font que très souvent, le malentendu a porté sur cette question de la violence. Les films ne sont pas constamment violents. Il y a des moments de sérénité, des moments d'épanchement, des plans fixes où les gens parlent.
Il y a une libération de l'énergie par la violence.
Tout à fait. Et je crois que c'est le fonctionnement du cerveau qui l'intéresse plus que ce qu'il appelle le point de non-retour du cerveau. C'est-à-dire le moment où... la violence va exploser ou ne va pas exploser. Dans La Maison de Bambou, j'étais frappé hier par deux ou trois moments où c'est extrêmement terrifiant quand Robert Ryan va s'exploser, mais avant.
Cette tension.
Voilà, je crois que ça, c'est assez important chez lui. Et la qualité des dialogues. Quand il dit, je peux me permettre de faire des plans fixes qui durent plusieurs minutes, parce que ce que je fais dire à mes personnages est intéressant. Et Fuller disait, je veux que dans mes films, on apprenne quelque chose, et on apprend une foule de choses. Moi, j'ai appris une foule de choses sur l'Amérique, sur la culture, dans ces films.
Oui, parce qu'il incorpore, au fait, de l'histoire. Donc, on apprend quelque chose dans ces films, à travers l'émotion. Mais c'est vraiment un cours d'histoire, ces films... On apprend toujours quelque chose, que ce soit la guerre ou le... quoi qu'il en soit.
Sing Auld Lang Syne.
Oh, who?
What was that you sang?
You pulling my leg. You play it. You know it good.
What did you sing?
The Korean National Anthem. You play it good. Very good.
Voilà, c'est une des nombreuses choses qu'on apprend dans les films de Fuller. Là, c'est dans J'ai vécu l'enfer de Corée. L'hymne national coréen était chanté sur l'air de Ce n'est qu'un au revoir. Il y a ce personnage formidable d'enfant dans J'ai vécu l'enfer de Corée, qui au début du film, quand le sergent va le traiter de gook, l'équivalent français, ce bridé Shintok, il va dire je ne suis pas un gook, je suis un sud-coréen. Et voilà, encore une fois, une image de Fuller, le Fuller soi-disant raciste. Et malheureusement, on n'a plus le temps de revenir sur l'histoire de Dressé pour tuer, White Dog, ce film que la Paramount a refusé de sortir parce qu'elle avait peur à cause de campagnes, de diffamation sur le film, qu'on l'accuse de racisme. Ça sera une autre émission encore à faire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on apprend tout ça chez Fuller, mais ce n'est jamais didactique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'émotion, on est toujours dans le cinéma et même son discours antiraciste n'est jamais lourd, n'est jamais. Il nous va nous montrer des personnages simplement qui sont avec leurs contradictions et dont il va retourner sans arrêt ce qu'on peut penser d'eux.
Oui, c'est les faits. C'est les faits. C'est les noms qu'on appelait les gens et par exemple aussi dans le port de Pickup on South Street, le port de la drogue, quand on l'appelait un communiste, c'est pas lui qui parle, c'est le personnage. Quand le mec appelle le jeune garçon le gook, le bridé, c'est comme ça qu'on les appelait. Dans Dressé pour tuer, c'est vrai qu'il y avait des chiens qui étaient élevés pour attaquer des Noirs. Enfin, c'est des faits. En tant que journaliste, il ne comprend pas comment on peut lui attacher à lui ces étiquettes, encore une fois.
Merci beaucoup, Samantha Fuller. Merci, Jean Narboni, de nous avoir appris quelque chose de ce grand homme et cinéaste qu'était Samuel Fuller, pour en savoir plus, parce qu'évidemment, tout cela est passé très, très vite. Je vous recommande, chers auditeurs, Fuller Life, le film que vous avez produit et réalisé comme Sam Fuller, Samantha Fuller. Le film sort en DVD Blu-ray chez Carlotta Film, éditeur indispensable de nombre de films de Samuel Fuller. On en trouve aussi chez ESC Éditions, chez Wildside, chez Warner, enfin, et puis surtout, il faut aller les voir sur grand écran à la Cinémathèque française. Oui. La rétrospective Samuel Fuller dure jusqu'au 15 février. Et c'est également à Toulouse jusqu'au 8 février. Les Bas-fonds new-yorkais Underworld USA ressort en copie restaurée et en salle à partir de mercredi prochain. C'est à la Filmothèque du Quartier Latin à Paris. J'en profite d'ailleurs pour exprimer toute ma gratitude à Jean-Max Cos et au regretté Jean-Marie Rodon qui m'ont fait découvrir les premiers, les films de Samuel Fuller dans leur salle du réseau Action dans les années 80. Votre livre, Jean Narboni, protagoniste Samuel Fuller, Un homme affable, est publié chez Capricci. On recommande également celui de Franck Laffont aux éditions Rouge Profond, Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement. Et puis celui coordonné par Jean-François Roger et Jacques Daniel chez Yellow Now, Samuel Fuller, Le choc et la caresse, une étude esthétique et exhaustive de son cinéma. Et enfin l'indispensable et passionnante autobiographie de Samuel Fuller, un troisième visage. Ça se lit comme un film de Fuller, on n'arrive pas à décrocher, pourtant le livre est épais. C'est aux éditions Alia. Alors, je parlais des années 80 où on redécouvrait, comme on le redécouvre sans arrêt, Samuel Fuller en France. Et bien, au même moment, aux États-Unis, un homme mystifiait l'Amérique et mystifiait jusqu'à ses proches.
Le cancer a commencé ici dans Andy's lungs et s'est répandu à son left arm. Nous avons initié un agressif radiation programme. See if we can eradicate the affected cells. Oh, excuse me, I'll be right back.
What a crock.
How dare you make light of this?
Dad, I cried when he broke his neck. He's not getting me again.
Jesus Christ, Carol, he's got lung cancer.
He wants us, scratching our heads, asking ourselves, is this real?
Of course it's real. We're in a hospital.
Mom, it's Cedars-Sinai. It's a showbiz hospital. I mean, Andy's studio friends, they probably run this place.
He plans these things. He takes over and hires actors. You know, personally, I don't think that doctor guy was very convincing. I mean...
Did you notice that his costume had the wrong shoes?
He didn't even have doctor shoes.
No, 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 that's bullshit.
En 1999, Milos Forman consacrait un film à Andy Kaufman, c'était Man on the Moon, et la figure de la contre-culture qui était Andy Kaufman, très connu aux États-Unis, mais alors jusqu'alors complètement inconnu dans le reste du monde, accédait tout d'un coup à une renommée mondiale. Il était connu aux États-Unis pour son rôle de Latka dans le sitcom Taxi, ses apparitions au Saturday Night Live aussi. C'était moins un comique qu'un performeur, un spécialiste de la mystification tout azimut. Andy Kaufman, donc mort en 1984, était incarné chez Milos Forman par Jim Carrey, qui a sans doute trouvé là le rôle de sa vie, un rôle dont il ne s'est jamais vraiment remis, si on en croit l'incroyable documentaire sur le tournage de Man on the Moon, Jim and Andy, The Great Beyond, diffusé actuellement sur Netflix, ou comment l'homme au visage de caoutchouc s'est fait complètement et littéralement posséder par son personnage. En témoigne aussi le dernier numéro de notre partenaire, nouveau partenaire Sofilm, qui affiche en couverture un Jim Carrey disjoncté, déprimé, bientôt ressuscité, point d'interrogation, avec en page intérieure un portrait qui nous donne des nouvelles de l'ex-star de Bruce Tout-Puissant et de The Mask, un homme qui semble s'épanouir actuellement dans l'auto-anéantissement. C'est très curieux. Et puis aussi, enquête Fernando Gonzo sur cette étrange communauté que sont les Kaufman Believers, des gens qui, comme à l'époque pour Elvis Presley ou Stanley Kubrick, sont totalement persuadés qu'Andy Kaufman n'est pas du tout mort, Fernando Gonzo.
Voilà, la question c'est, est-ce qu'il nous a eu encore? C'est la question qui se pose ici, la famille d'Andy Kaufman dans le film de Milos Forman, et qui se sont posés aussi beaucoup de fans. Quand Andy Kaufman meurt en 1984, suite à un cancer du poumon, lui qui ne fumait pas et qui ne buvait même pas non plus. Sa forme d'humour extrême, géniale, son amour du déguisement et des doubles, l'aurait mené à quitter sa carrière avec un gag aussi fou. Voilà, ça c'est la question que beaucoup de fans se sont posées. Et il faut dire que certaines choses sont pour les moins troublantes. C'est là que, dans ce film, on a voulu enquêter. En 1980, le New York Times publie la nécrologie du comédien Alan Abel. Sauf que, 4 jours plus tard, Abel fait irruption dans son propre enterrement pour dire « Je ne suis pas d'accord, regardez-moi, je suis bien vivant ». Voilà, la blague est immense, elle est réussie, mais quelqu'un avait deviné. Parce que pendant ces 4 jours, Abel reçoit des appels d'Andy Kaufman. Il a lu la nécrologie et, fasciné par ce canular, il a cherché à le rencontrer. Pendant les années qui ont précédé sa mort, Kaufman aurait annoncé à au moins 15 personnes son intention de faire une blague semblable à celle d'Abel. À tel point que, le jour de son enterrement, il y a plusieurs personnes qui ont pincé le cadavre pour s'assurer qu'il ne faisait pas semblant. Mais, même 30 ans plus tard, et malgré cette évidence physique, les fans continuent à y croire. C'est le début d'un phénomène, celui des Kaufman Believers.
Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi Tabouet.
Abu Dhabi Tabouet. Abu
Dhabi.
Comment expliquer l'ampleur du phénomène des Kaufman Believers? Eh bien, par que les fans du comédien non seulement s'adaptent, comme dans cet extrait, au rythme absurde et fantasque de son humour, ce qui est aussi arrivé à Jim Carrey par ailleurs, mais trouvent qu'il représente même l'archétype de celui qui se bat contre la médiocrité du monde. Et du coup, quelqu'un comme ça ne pourra pas mourir. Ou bien il ne peut pas mourir comme n'importe qui. C'est ce que croit un certain Stephen Maddox, mystérieux créateur du site aujourd'hui fermé andykaufmanlives.com, où on pouvait trouver de nombreuses évidences qui prouvent que l'acteur n'est pas mort. Maddox fréquente aussi de nombreux meetings organisés par une certaine Claire Chanel. Cette femme repère et contacte des fans de tout le pays pour les inviter et arrive même parfois à couvrir les frais du voyage. Sur place, Maddox, déguisé en clown, donne des brochures de son site, ce qui perturbe certains car Andy Kaufman avait dit qu'il reviendrait un jour après sa mort sous forme de clown. Plus tard, on découvre que cette Claire Chanel, celle qui payait tout, n'existait pas. C'était Maddox qui était derrière tout. Une telle mise en scène, un tel effort pour entretenir le mystère éveille une question troublante. Et si Maddox était Andy Kaufman? La chose se complique encore quelques années plus tard, plus récemment, sur YouTube. Dans le commentaire de la vidéo « Andy Kaufman eating an ice cream », un certain F. Ugly écrit « La vie, la mort, c'est tout collé ». Forcément, ça intrigue les Believers, qui cherchent à le rencontrer. Il accepte donc un rendez-vous où il se pointe avec deux choses sur le bras. Le certificat de décès de Kaufman, qui avait été rendu public au moment de la sortie de Man on the Moon, et un scénario inédit écrit par Kaufman lui-même, où le personnage principal fait semblant de mourir à l'hôpital Cedar Sinai de Los Angeles, le même où il mourra plus tard. Confusion, paranoïa, et si ce F. Ugly était Kaufman? Contacté, il nie. Maddox, de son côté, avoue un fan sa vérité. Il serait un fils caché de Kaufman, mais Kaufman serait vivant sous l'identité d'un vétéran de Vietnam. Plus tard, un journaliste écoutera une autre version du même Maddox. Pourquoi cette immense somme d'argent dépensée? Pourquoi toutes ces années? La réponse de Maddox, c'est un fardeau, mais il fallait que ça continue. Donc, vrai ou fausse, la mort d'Andy Kaufman sera la blague infinie.
I just want to say, until we meet again, please remember. In this friendly, friendly world, with each day so full of joy, why should any heart be lonely? In this friendly, friendly world, with each night so full of dreams, why should any heart be afraid? Yep, it's a friendly world.
Voilà, il y en a même qui disent que Donald Trump n'existe pas et que c'est Andy Kaufman qui se vante de son gros bouton nucléaire depuis le bureau ovale de la Maison Blanche. Merci Fernando Gonzo. Pour en savoir plus sur les Kaufman Believers, c'est dans le numéro 56 de SoFilm. Quant au documentaire Jim and Andy, The Great Beyond, c'est actuellement sur Netflix. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Bruno Gagnère-Fontani. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Rafik Zénine. La semaine prochaine, Plan large rendra hommage à la cinéaste Solveig Anspach, disparue il y a 2 ans et dont l'intégrale des fictions et documentaires est sortie en coffret DVD. Nous serons avec une de ses comédiennes fétiches, Florence Loirecaille, et son producteur, Patrick Sobelman. D'ici là, j'aurai eu le plaisir d'être invité par l'Université populaire du cinéma Le Luxor à Paris. Ce sera demain à 10h45 du matin pour une rencontre autour du film Space Cowboys de Clint Eastwood, un film qu'il me tarde de revoir. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.
Thank you for this friendly, friendly world. Thank you. And goodbye.